Jeudi 15 septembre 2005, Monique et Michel Pinson-Charlot étaient les invités du Fou du Roi, une émission animée par Stéphane Bern sur France Inter. Bon, vous me direz, accepter l'invitation d'un royaliste notoire qui travaille sur une radio de service public n'est pas une contradiction insurmontable. Et puis, c'était bien le moins pour présenter leur ouvrage sur les châteaux. C'est donc aux côtés de Michel Boujenah, l'immense Michel Boujenah, qui tentait de refaire un retour en ressortant les mêmes blagues sur les mêmes juifs qui ne vous faisaient déjà pas rire à l'époque de son précédent comeback. Donc, Michel et Monique Pinson-Charlot étaient réunis avec Michel Boujenah dans le studio de France Inter pour présenter leur livre « Château et Châtelain ». Le principe de cette émission est simple. Les invités tentent de faire une phrase entière avant d'être interrompus par un des co-animateurs présents sur le plateau. Des interventions brillantes du genre « ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans Gala » ou « 300 pages, c'est quand même moins que Michel Houellebecq » ou encore « Vous qui êtes sociologue, vous en pensez quoi de la finale de Star Academy ?» Aujourd'hui, Monique et Michel Pinson-Charlot sont à nos côtés sur Fréquence Paris Pluriel pour discuter, prendre avec nous le temps de la réflexion dans une sympathique émission où l'ensemble des animateurs sont de gauche, bénévoles et savent à peu près tous lire et écrire. Entre ces deux émissions, quoi de commun? Rien, ou à peu près, enfin on l'espère. Entrez donc ici, Monique et Michel, et venez en paix, nous ne vous voulons aucun mal. Car depuis le Fou du Roi, votre parcours médiatique n'a cessé de nous surprendre. Car jeudi dernier, en sortant des studios de France Inter, direction ceux de France 3 pour une interview avec Marc-Olivier Fogiel, aux côtés de la très parvenue baronne de Rothschild, du châtelain imitateur Bernard Lecoq et de David Douillet, vous étiez donc invité à parler de votre livre. Marc-Olivier Fogiel vous a d'abord demandé « C'est pour payer la toiture de votre propre château que vous avez écrit ce livre ?» Et puis un gros monsieur que vous aviez déjà croisé à France Inter vous a demandé si c'était vrai que le baron Sellière avait des hémorroïdes. Et puis tout le monde a bien ri, hein. Michel, lui, a bien tenté de dire que le problème du baron, vu qu'on en parlait, c'était qu'au-delà de la présidence du MEDEF, ce type, au quotidien, détestait vraiment, sincèrement les pauvres. Mais il n'a pas pu finir sa phrase, parce que quand même, dire du mal de Sellière, c'était gênant, vu que c'était l'éditeur de tous les gens qui étaient autour de la table avec eux. Après, les Pinson-Charlot sont repartis. Ils ont juste traversé la rue pour aller répondre aux questions de Thierry Ardisson aux côtés de David Douillet, trois ex-stars du porno et pas très loin de BHL. Nos deux amis ont bien vu que leur étude était relativement incomplète quand Thierry Ardisson leur a demandé « Alors, dites-moi, les meilleurs partout, c'est dans quel château ?» Il leur a aussi demandé « Sexuellement, on est plus épanoui chez les bourgeois ou chez les aristos ?» Et puis il a fini par demander « Vous, qui travaillez à deux depuis 20 ans, c'est parce qu'il y en a un qui sait pas faire ses lacets ?» Une actrice présente a dit que elle aussi, elle avait déjà tourné dans un château une fois, mais qu'il n'y avait pas du tout de budget costume dans son film. Plus sérieusement, le toujours progressiste Ardisson a demandé si s'en prendre aujourd'hui à l'aristocratie et au châtelain, c'était pas un peu réac. Monique a tenté de dire un truc sur les rapports de domination sociale qui n'avaient pas tant changé que ça, et que s'interroger sur l'existence dans notre pays de gens aussi riches, c'était sûrement répondre au pourquoi qu'il y avait autant de gens pauvres. Vu que Monique avait dit aristocratique dans sa phrase, il y a un type qui a fait rimer ça avec ta mère tu la niques, la salarie beaucoup, puis a applaudi, après il y a eu de la musique. Qu'il y a un monsieur qui était devenu une dame est arrivé et il a beaucoup parlé de son chirurgien et de sa mère. Pas le moral les Pinson-Charlot. Mais leur chemin de croix médiatique a continué à RTL, aux grosses têtes, Bouvard, en les accueillant, les a présentés en faisant une contrepétrie sur les fesses de la comtesse. Et puis le vicomte de Villiers, qui rivalise de finesse avec Olivier de Kersauzon, a demandé si dans les harems en Turquie, il y avait des partouzes. Michel et Monique, accablés, ont bien tenté de répondre quelque chose, mais ça a été coupé au montage. Après, il y a eu Mireille Dumas, qui a parlé du château de sa mère, et puis le dimanche chez Drucker et son invité permanent Sarkozy qui a parlé tout le temps. Et puis le marathon s'est fini chez Laurent Ruquier pour son émission. On a tout essayé, même de lire un livre. Et il leur a demandé si c'était vrai que chez les aristos, le papier de toilette était doré à leur fin. Alors là, Monique et Michel ont penché la tête douloureusement et ils n'ont même pas tenté de répondre. Mais les voici qui arrivent dans notre studio, harassés, usés, sans qu'on en sache vraiment plus sur les hémorroïdes de Sellière.
Et oui, et puis on va peut-être pas vous lâcher sans avoir le fin mot de l'histoire de ces hémorroïdes. Mais avant ça, on vous promet qu'on va bien vous recevoir, c'est-à-dire qu'on va pas vous poser quatre questions en même temps. On va écouter vos réponses patiemment. on a lu vos livres et on a même invité Juliette, qui maintenant fait partie des chroniqueurs et des de l'animation de la radio. Juliette, qui a passé sa jeunesse à Versailles, elle pourra témoigner. Donc, on va revenir, Monique et Michel. Donc, Monique et Michel Pinson sont venus ici pour nous présenter leur livre Château et Châtelain, Les siècles passent, le symbole demeure, publié aux éditions Anne Carrière. Mais avant ça, Monique et Michel, on va peut-être revenir sur votre parcours de chercheur et de sociologue, puisqu'on sait que vous avez que vous traitez d'un sujet qui est peu traité en sociologie, souvent au profit de l'étude des classes plutôt subalternes, des ouvriers, des employés, des chômeurs, etc., des sujets qui sont mais classiques en sociologie. Et pourtant, vous travaillez sur un autre sujet duquel on est peu proche. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur votre parcours, expliquer ce qui vous a motivé dans le choix de ce sujet?
Bon, alors c'est Monique qui va commencer. Avec Michel, c'est vrai qu'on est un petit peu contestataire, critique par rapport à notre milieu professionnel, dont tu fais partie, mon cher Cédric. Parce qu'au fond, on avait beaucoup travaillé, Michel et moi, sur les problèmes de ségrégation. Bon, ici, on est dans un quartier qui est quand même très, très ségrégué. Et puis, pourquoi c'est comme ça? Et au fond, entre sociologues, ethnologues, anthropologues, on en finissait par négocier les cages d'escalier pour nos enquêtes. Donc un beau jour avec Michel, on en a eu marre et on s'est dit bon, il faut aller dans les beaux quartiers. Et là, effectivement, hein, Michel, on a trouvé la paix royale. On a toujours été que tous les deux et à ce jour, nous n'avons toujours pas fait école. Donc au fond, pour conclure cette intervention, je pense que nous avons travaillé sur la bourgeoisie dans un premier mouvement de réaction par rapport à l'immense majorité de nos collègues qui se contente de baisser la tête au lieu de la lever.
Moi, je voudrais rajouter que par rapport à la présentation de notre parcours médiatique tout à l'heure, qui était un petit peu, enjolivé, il en avait remis un peu, Pierre. Bon, il y en a eu moins que ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que notre démarche par rapport à la haute société française, c'est un peu la même chose que notre démarche par rapport aux médias. C'est vrai que nous allons dans des médias qui ne sont pas tous recommandables, qui ne pensent pas tous comme il faut, et qui ont des manières de présenter les intervenants moins respectueuses qu'ici. Bon. Mais en même temps, ce que nous voulons, en étant dans ces moyens de communication de masse, comme on dit, c'est faire passer des éléments de connaissance de la société française qui, si nous n'y allons pas, auront très peu de chances d'être présents. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint notre démarche d'avoir voulu travailler dans la grande bourgeoisie et la haute société française, c'est-à-dire que ce milieu social qui est au pouvoir, hein, pour dire les choses de façon courte, ce milieu social qui est au pouvoir est en fait très mal connu et les rouages, les mécanismes du pouvoir, c'est quelque chose, et la transmission de ce pouvoir, c'est quelque chose qui n'est pas connu et nous pensons que plus le peuple de France, pour parler très bien, plus le peuple de France saura à quoi s'en tenir sur le pouvoir, plus les choses auront des chances d'avancer de façon positive.
Mais le fait que cette sociologie des élites et de la bourgeoisie, vous soyez quasiment seul sur ce terrain, c'est par rapport à d'autres pays, à d'autres manières de faire de la sociologie, c'est vous avez des en Italie, enfin dans d'autres pays européens, des correspondants ou vraiment c'est un sujet peu exploité partout?
Mais c'est on attrape les choses par un bout. Très spécifiquement, je dirais franco-français et Pinson-Charlot, c'est-à-dire que on a choisi toujours la facilité, comme on avait un peu la trouille de travailler sur les milieux qui cumulent toutes les formes de richesse, aristocratie fortunée, grande bourgeoisie fortunée et ancienne. Au fond, on a commencé par les modes de vie et parce que les sociologues en Italie, en Angleterre, en Allemagne, là par exemple, il vient un de nos étudiants, Hervé Joly, tire un livre sur la comparaison entre les élites et l'Allemagne, mais ce sont les élites professionnelles. c'est-à-dire les élites politiques, les élites artistiques, les élites de différents champs professionnels, alors que nous, on a voulu casser ça, parce qu'au fond, ce qui caractérise l'aristocratie et la grande bourgeoisie, c'est précisément de ne pas être définie comme les membres des classes moyennes auxquelles nous appartenons par la seule profession. On est dans le cumul des différentes formes de richesse. Et au fond, nous, avec Michel, quand on arrive à un cocktail, nous, on nous présente toujours Monique et Michel Pinson-Charlot, directeurs de recherche au CNRS, parce que finalement, on n'a pas d'autre forme de capital que celui-ci, tandis qu'ils nous présentent Patrice de Vogüé, Guy de Rothschild. Enfin, le patronyme familial suffit à condenser le cumul des différentes formes de richesse dont je viens de parler.
Justement, vous insistez beaucoup dans vos différents ouvrages sur le fait que la bourgeoisie, ça se résume pas simplement à du capital économique, à de l'argent, mais qu'il y a d'autres choses qui vont autour de l'argent et qui vont avec. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus de ces choses qui vont avec sur le plan culturel, symbolique, comme vous dites souvent?
Je peux prendre un exemple. Pour être concret, Monique va trépigner un peu sur sa chaise parce qu'elle l'entend depuis plusieurs...
Oh non, c'est pas possible. Il va vous parler du Conseil de l'Union Interalliée, du cercle de l'Union Interalliée.
Oui, elle a une lunette aussi. Alors, vous savez, à Paris, il y a des endroits où se concentre l'élite de l'élite. Ce sont les grands cercles et clubs très sélectifs à l'entrée. Il y en a un qui est rue du Faubourg Saint-Honoré, entre la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et l'Élysée. Rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est le cercle de l'Union Interalliée, dont je vous fais grâce des origines. Un cercle de l'Union Interalliée qui est vraiment un club où on entre par cooptation, avec présentation par parrain, vote sur votre candidature, etc. C'est extrêmement sélectif et c'est très sélect. Alors, qu'est-ce qu'on constate pour répondre à cette question du cumul des richesses, par exemple? On voit d'abord que ce ne sont pas des endroits où il n'y a que... ce sont des endroits importants dans la vie sociale. Parce que vous avez au grand conseil de ce... C'est en fait le conseil d'administration de cette association de 1901. Légalement, c'est une association de 1901. Au grand conseil de ce cercle de l'Union Interalliée, vous avez des personnalités très importantes de la politique. Vous avez par exemple Édouard Balladur, qui s'occupe donc de la gestion du cercle de l'Union Interalliée. Vous avez un général, le général de Boissieu. Vous avez des hommes politiques comme Édouard Bonnefous, qui a été vice-président du Sénat, qui est président de commission au Sénat. Vous avez des banquiers, par exemple David Veil, qui est le directeur-gérant de la banque Lazare, ce qui est une des banques privées les plus importantes. Ces gens-là, j'en passe. Vous avez des membres de l'Institut.
Gabriel de Broglie, qui était
dans les médias, président du CNCA, etc. Et ces gens-là ont ce qui est tout à fait caractéristique de la grande bourgeoisie de la haute société, c'est qu'ils ont des positions éminentes, des positions de pouvoir dans des secteurs différents de l'activité. Un militaire, il y a même un Ormesson qui se présente comme agriculteur, parce qu'il est grand propriétaire terrien. Donc vous avez des gens qui ont des positions éminentes dans différents secteurs d'activité, et c'est bien une image de la grande bourgeoisie, c'est-à-dire quelque chose qui ne se définit pas par le travail, proprement dit, mais par le cumul à la fois d'un patrimoine de rapports qui apporte des ressources bien différentes du salaire, et par la culture, par le savoir, par les diplômes, le capital social. Alors, il y a du capital culturel, je crois que c'est assez évident dans ce qui vient d'être dit. Il y a aussi du capital social, c'est l'existence même de ces cercles. C'est-à-dire, ces cercles, ce sont des lieux où des gens qui ont du pouvoir dans différents secteurs se rassemblent, se connaissent et sont dans des relations très proches. Ce qui, vous comprenez bien, que vous avez comme dans votre manche un président de société, que vous avez un général, que vous avez un membre d'un institut, ça peut aider dans des secteurs très, très différents.
Au final, donc, c'était comme un bon exemple, Monique, tu en conviendras, mais tu en as peut-être un autre.
Ah ben, on peut vous en sortir des tonnes, puisque de toute façon, la cooptation est le principe essentiel du fonctionnement des classes dominantes. Donc, que ce soit dans les cercles dont Michel vient de donner un exemple très développé, que ce soit dans les rallyes que Juliette connaît très bien à Versailles, que ce soit...
Je précise que je ne les connais pas du tout.
Que ce soit dans les conseils d'administration... Tout ce qui touche à la vie quotidienne d'ailleurs des dominants fait l'objet de cooptation, que ce soit même dans les quartiers. Au fond, tout se passe comme si le voisin de palier allait être coopté par un agent immobilier qui, comme par hasard, fait partie du milieu. Voilà, la cooptation est donc généralisée.
Alors juste, si il y a cooptation, l'accès à un terrain tel que celui-là, un terrain de recherche tel que celui-là, doit pas s'imposer un certain nombre de problèmes. J'imagine que c'est pas un milieu qui s'ouvre très facilement, qui donne les billes de son mode de fonctionnement interne très facilement. Comment techniquement on fait pour accéder à ce type de données?
Je vais commencer parce que d'abord le premier problème épistémologique que Monique a rencontré, c'est Michel. C'est-à-dire que Michel
c'était pas un mince problème.
est un fils d'ouvrier ardennais. Et l'idée, moi je suis de là, il faut que je me situe aussi, je suis de la petite bourgeoisie de province. Mes grands-parents étaient médecins ou industriels de la soie à Saint-Étienne.
Petite, tu sais.
Petite bourgeoisie de province. Michel, fils d'ouvrier ardennais, donc tous les deux très éloignés de toute façon de la grande bourgeoisie parisienne. Mais Michel, l'idée de travailler sur la grande bourgeoisie était une idée qui était mais absolument impensable. Donc, première chose, il faut convaincre Michel, parce que moi, je ne voulais pas aller travailler dans la grande bourgeoisie toute seule, parce qu'au fond, je savais très bien déjà intuitivement par ma propre famille à quel point il fallait se présenter en famille, en couple. Déjà, c'est une classe sociale dont la reproduction repose sur la cellule familiale. Enfin, cellule familiale, j'ai tort d'employer ce terme, sur la famille. Et la famille élargie, car les grands ont des grandes familles. Bon. Donc voilà, donc nous nous sommes présentés en famille, cher Pierre, et sur des recommandations. C'est-à-dire que nous avions travaillé avec un collègue qui était issu de la grande bourgeoisie et qui était le directeur du CSU et qui nous avait toujours dit « Le jour où vous voudrez travailler sur la grande bourgeoisie, je vous aiderai ». Et il nous incitait beaucoup à travailler sur la bourgeoisie. Et puis moi, il s'est trouvé que je me suis trouvé une amie d'enfance de Lozère, puisque je suis lozérienne, qui avait épousé un comte.
Tout le monde ne peut pas épouser le fils d'un ouvrier ardennais, c'est évident.
Et qui nous a ouvert les portes de l'aristocratie.
Bon, je vais tenter de reprendre. Tout d'abord, en précisant une chose, puisque je n'ai pas fait d'entrée de jeu, et puis j'ai entendu que tu mentionnais le CSU, c'est le Centre Culture et Société Urbaine. Si je ne le mentionne pas, tu vas être très très fâché, Monique, et tu auras bien raison. C'est donc le centre du CNRS dans lequel vous travaillez. Bon, je vais essayer de reprendre les rênes de cette affaire. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur la méthode?
Non, que Michel aura du plaisir à contester la façon dont Monique a présenté les choses.
Non, pour moi, c'était particulièrement difficile, c'est clair. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la sociologie des classes dominantes est peu développée. Il y a une sociologie au sein de l'entreprise, mais ce n'est pas les mêmes relations. On prend les gens dans leur milieu de travail et on parle de travail, c'est quand même plus simple. Enfin, de travail, d'encadrement, de direction, tout ce qu'on veut, de sélection des cadres. Bon, mais c'est quand même pas la même chose que de prendre les familles et de voir comment fonctionnent les familles et comment il y a reproduction sociale. Donc c'est difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a utilisé pour pouvoir entrer dans cet univers les relations dont Monique a parlé, et ensuite on a utilisé une règle de fonctionnement de ce milieu. Il y a la cooptation dont on a parlé, et une forme minimale de la cooptation, c'est disons la recommandation, c'est-à-dire que dans cet univers social, on vous recommande des personnes qui vous paraissent dignes d'être reçues, d'être acceptées pour ceci, pour cela. Et le système de la recommandation fait que si vous êtes recommandé auprès d'une famille pour aller éventuellement faire un entretien, la famille auprès de laquelle vous êtes recommandé aura du mal à dire non, parce que c'est désagréable, ce n'est pas courtois par rapport à celui qui vous a recommandé. Donc on a utilisé ce système qui, en faisant une boule, hein,
un capital social totalement exponentiel,
qui nous a permis d'avoir un système de relations et de recommandations efficaces.
Mais justement, la publication successive de vos livres relativement critiques sur la bourgeoisie n'a pas mis un terme, ne vous a pas posé problème dans ces milieux-là ?
Écoutez, dès le premier ouvrage dans Les Beaux Quartiers, Michel et moi, nous avons tremblé. Et puis non, parce qu'au fond, il y a une explication sociologique au fait que même pour ce livre sur les châteaux dont on va parler tout à l'heure, les gens concernés acceptent nos analyses. D'abord dans la mesure où on essaye de toujours être respectueux, comme quand on travaillait sur les ouvriers désinterviewés. Hein, donc une écriture qui est objective, qui est un travail de chercheur du CNRS. Et puis au fond, on s'est rendu compte avec Michel que c'était un milieu qui, contrairement à notre milieu de classe moyenne intellectuelle, assumait parfaitement sa position sociale. C'est-à-dire que nous, on est dans une position intermédiaire, on est une classe sociale à deux fronts, comme disait Norbert Elias, on regarde vers le haut, on penche la tête vers le bas, tandis que les grands bourgeois savent qu'ils sont en haut, qu'ils ont des tas de privilèges à la naissance, que ces privilèges leur donnent des droits et des devoirs, et sans arrêt, l'éducation des futurs héritiers est dans la formalisation, la codification. Au fond, on ne laisse rien au hasard.
Et juste dernière question avant qu'on aborde nos châteaux et nos châtelains. Vous avez un parcours politique fortement ancré à gauche. Est-ce que comment on concilie ce type d'action avec un objet aussi chargé d'antagonisme de classe ?
Eh bien, la conciliation se fait par la prudence rédactionnelle dont Monique a parlé. On écrit de façon très académique d'une certaine manière, c'est-à-dire que on rend compte de nos observations, des résultats de la recherche, on fait des analyses qui sont des analyses qui montrent les inégalités, qui montrent les avantages énormes de ce milieu. Ceci dit, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple dont a parlé Monique tout à l'heure, dans Les Beaux Quartiers, c'était un livre sur la ségrégation spatiale, essentiellement. Et on se disait que ça allait être mal reçu parce qu'on mettait en évidence que cet univers social était très recherché d'entre-soi et ne voulait pas côtoyer d'autres groupes sociaux, des gens qui soient différents. On mettait ça en évidence, on l'écrivait, et ça ne les a pas du tout gênés. C'était écrit de façon polie, disons.
Mais oui, finalement, ils se disaient, mais pourquoi voulez-vous que j'aille vivre avec d'autres ? On est si bien avec ses semblables.
Et voilà, et ça, il suffit d'être poli pour que le travail soit admis.
Alors, le grand Jacques a dit que les bourgeois, c'était comme les cochons, mais aujourd'hui, faut-il refonder notre conception de la bourgeoisie, la réactualiser pour le moins ? Donc, avec Cédric, ne reculant devant rien, on s'y est collé. Cédric.
Et oui, donc les bourgeois, c'est comme les cochons, mais c'est aussi comme les ouvriers. Ils peuvent pas faire une fête tranquille sans avoir des sociologues sur le dos.
Alors, les bourgeois, c'est comme les vers solitaires. Pour les tuer, faudra d'abord leur arracher la tête avec les dents.
Mais les bourgeois, c'est aussi comme l'UDF ou le monoski. À la limite, on pourrait s'en passer.
Les bourgeois, c'est comme vous et moi, et j'aime bien insulter les auditeurs. Pourquoi c'est moi qui l'ai dit, celle-là ?
Mais les bourgeois, c'est aussi comme les chercheurs du CNRS. Ils ne baissent qu'entre eux, mais, petite nuance, ils se marient avec leur cousine.
Les bourgeois, c'est comme Hervé Guémard, ça vit pas bien en moins de 600 mètres carrés.
Et les bourgeois, c'est aussi des gens qui parlent comme ça. Et Monique et Michel pourront témoigner que je ne mens pas. Donc je fais la bourgeoise. Mon amie est délicieuse, elle organise des déjeuners littéraires. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, notre invité fut le truculent Philippe Bouvard. Je mens pas.
Alors les bourgeois, c'est comme le Front National, ça fait longtemps qu'on est de s'en débarrasser, pourtant ils continuent à prospérer.
Et les bourgeois, c'est aussi comme les gérontophiles. Plus c'est vieux et plus c'est bon. Ça vaut pour les pierres, les badernes, les bijoux, les idées, les voitures, les guerres, les baronnes, etc.
Les bourgeois, ça pourrait être comme les Finlandais, ils pourraient mourir plus souvent dans les rallyes.
Et les bourgeois, c'est comme les Marcel, ça vit sur le dos des ouvriers.
Les bourgeois, c'est comme Laurent Fabius, ça met ses enfants dans des grandes écoles.
Et les bourgeoises, c'est comme les sapins, elles s'habillent de manteaux verts, elles sont raides comme des tubes, elles s'ornent de guirlandes à Noël. Je savais que j'aurais du mal à le dire, celui-là. Elles s'ornent comme des guirlandes à Noël et finissent découpées en morceaux.
Alors les bourgeois, c'est comme Lionel Jospin, ça passe ses vacances à l'île de Ré.
Et les bourgeois, c'est comme Dracula, ça vit dans un château, ça a les dents longues et ça suce le sang des pauvres. Par contre, ça leur déplaît pas trop d'être mis en pleine lumière.
Les bourgeois, c'est comme Jack Lang, ça trouve que parler d'argent, c'est du dernier vulgaire.
Les bourgeois, c'est comme quoi ? C'est comme les aristocrates, mais eux, il faut les couper en deux dans le sens de la longueur.
Les bourgeois, c'est comme Jacques Brel, il meurt sur une marquise.
Et les bourgeois, c'est comme les portes jartelles, les tirs au flanc et les ramasse-crottes. Ça aime les noms composés.
Et puis pour terminer, les bourgeois, c'est comme les cochons, ils se comportent vraiment pas du tout comme nous à table.
Disent-ils, monsieur le commissaire, les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête. Disent-ils, monsieur le commissaire, joie, plus ça devient vieux et plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300 ans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est que les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des 300 ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de... Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
On est toujours sur FPP, dans les oreilles loin du front, où on continue à disséquer les bourgeois.
Puis donc, on va reprendre maintenant plutôt sur le bouquin donc, que vous venez de faire paraître, Château et Châtelain, les siècles passent, le symbole demeure. Et on va reprendre, je pense, sur une donnée, enfin du moins sur une explication qui me paraît vraiment très très intéressante que vous exposez au début. Vous dites dans le fond, pas de château sans famille. Vous avez dit tout à l'heure que tout est coopté dans la grande bourgeoisie. Apparemment, ce que vous exposez, c'est que la famille aussi se coopte, ou du moins se construit. C'est pas une donnée naturelle, dites-vous. Est-ce que vous pourriez développer sur ce point?
C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que les grands ont des grandes familles. Et ça distingue beaucoup les milieux les plus dominants de notre société du reste de la société. Parce que vous connaissez peut-être les travaux d'un de nos collègues, François de Singly, qui montre très bien que les milieux des classes moyennes intellectuelles ont des familles qui sont décomposées, recomposées, divorcées, enfin, etc. Et au fond, on peut dire qu'il est presque un militant de l'individualisme. Enfin, en tout cas, il valorise, je trouve, dans ses travaux de sociologue, l'individualisme. Bon, alors, je ne porte pas de jugement de valeur. Ce que je constate, c'est que dans les milieux des classes moyennes et dans les milieux populaires, on est face à une désaffiliation du lien social et à une perte, en tout cas, du lien familial. Dans la grande bourgeoisie et l'aristocratie, au contraire, il y a suraffiliation du lien et on est là face à des grandes familles. Donc, avec Michel, on pense que c'est là une inégalité de plus qui est en train de se concocter pour le siècle qui s'annonce, c'est-à-dire que la grande bourgeoisie aura des réseaux de solidarité familiaux, tandis que le reste de la société, ce seront des espèces d'électrons libres dans un champ, et donc où il n'y aura plus tellement cette solidarité. Alors, la famille est le cœur du processus de la reproduction des positions dominantes et les grands ont des grandes familles et cela se construit. Et toi, Michel, tu vas expliquer comment on construit une grande famille.
Peut-être en repartant aussi sur le cas des Wendel qui nous ont offert une grande exposition à Orsay l'année dernière, valorisant donc cet héritage familial.
Oui, on peut partir du cas des Wendel, effectivement. Il y a dans le cas de cette famille, il y a un système d'alliance extrêmement bien clair qui montre que il y a une endogamie de classe extrêmement forte dans ce milieu, si bien que vous retrouvez dans la généalogie des Wendel sur plusieurs générations toute la haute société française qui est alliée à cette famille Wendel. Et Ernest Antoine Seyer, qui est un descendant Wendel par sa mère, et un descendant du baron Seyer, banquier d'Empire, par son père. Et donc, on voit bien qu'il y a fusion d'un milieu par des systèmes de relations familiales. Alors, on vient de publier un livre sur les châteaux. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux châteaux? Parce que le château est l'une des manières de symboliser et de mettre en évidence la solidité et la durée de ces liens familiaux. Alors, pourquoi? Parce que le château est une vieille demeure. Des pierres respectueuses qui en imposent par la durée qu'elles représentent. Et c'est une demeure qui inscrit la famille qui la possède dans un passé lointain et qui inscrit la famille aussi dans un devenir que porte par définition le château. On ne va pas le démolir. Et là, on a un bien immobilier qui, d'une certaine manière, est très représentatif, très symbolique de ce milieu social. Et pour en prendre vraiment conscience et voir ce que ça veut dire, en venant ici, là, dans le 19e arrondissement, rue d'Aubervilliers, il y a des immeubles qui sont murés et des immeubles qui vont être détruits. Et vous savez aussi que, parce que ce sont des immeubles insalubres, des immeubles populaires qui n'ont pas de valeur historique, etc., qui vont être détruits. Vous savez aussi que maintenant, on détruit des tours et des barres de logements sociaux HLM dans les cités par implosion, parce qu'il y a surdensification, on trouve que ces immeubles n'ont plus aucune utilité, on les détruit. On a donc une population qui voit disparaître son habitat et une population qui, au contraire, possède un habitat intangible, qui est même le patrimoine national. Donc on a vraiment, avec cette opposition entre l'habitat obsolète qu'on détruit, et on détruit tout le passé en même temps de ces familles populaires qui ont habité là, à l'opposé, vous avez les châteaux où c'est depuis le XVIe siècle que la famille y est, ou depuis le XIXe pour la bourgeoisie, et dans ces châteaux, il y a la durée qui est mise en évidence.
Moi, je voudrais juste rajouter une donnée pour vos auditeurs. Donc Ernest-Antoine Seyer de Laborde, quand il était patron du MEDEF, a jugé en juillet 2004 que la hausse du SMIG était démesurée. Je voudrais simplement préciser qu'avec Michel, nous avons étalé dans notre château, enfin dans notre salle à manger séjour, la généalogie de cette famille. Nous avons travaillé sur la 9e génération d'Ernest-Antoine Seyer de Laborde et nous avons repéré les 345 membres de cette génération. Sur ces 345 membres, il y a 78% de noms nobles ou d'apparence noble. Autrement dit, celui qui fustige la hausse démesurée du SMIG est allié avec les familles de la noblesse la plus ancienne de notre pays.
Alors Pierre, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais revenir justement sur le livre Château et Châtelain. Dans votre livre, vous abordez le cas des Châtelains, des gens qui possèdent un château dans leur ensemble. Et alors, est-ce qu'on pourrait dresser un petit tableau, parce que c'est pas tous, ils ont des profils très différents, de qui sont les Châtelains et quelles sont les logiques différentes qui font qu'il y ait des gens ou des collectivités ou des groupes qui ont accédé à la possession d'un château?
Là, ça va être une double réponse. Peut-être que tu peux commencer, Michel, et puis je continuerai.
Eh bien, on peut faire comme ça.
Parce que c'est compliqué de décrire le marché des châteaux.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, sous l'Ancien Régime, le château...
Ah non, tu ne vas pas recommencer à l'Ancien Régime. sinon on y est à 9 heures encore.
Non, mais c'est incontournable. La grande bourgeoisie et la noblesse fortunée, c'est la durée. Et la durée, ça commence depuis longtemps. C'est ça, la durée. Bon. Donc, sous l'Ancien Régime, les propriétaires de châteaux étaient des nobles. Bon, c'était simple et clair. Il y a eu la Révolution, il y a eu les biens nationaux, il y a eu entrée de bourgeois dans de vieux châteaux. Il y a eu aussi construction importante de châteaux durant le XIXe siècle liée à l'accumulation de fortunes considérables. Par exemple, les Rothschild avaient 5 ou 6 châteaux au moins dans la région de Gouvieux, c'est-à-dire près de Senlis,
l'Oise.
Dans l'Oise, une région très boisée et très, très prisée par la haute société parisienne. Il y a eu construction au XIXe siècle de 5 ou 6 châteaux par les Rothschild dans ce coin-là. Donc on voit que d'abord les châteaux, ça remonte, c'est d'abord la noblesse, puis c'est la bourgeoisie, et maintenant il y a un éclatement de la propriété de ce type de biens, parce que certains châteaux ont été laissés plus ou moins en déshérence parce que des familles ruinées n'ont pas pu assumer le maintien, et ça a été racheté par des gens de conditions modestes, parce qu'une bâtisse comme ça en mauvais état, ça ne vaut pas très cher. Et on a quelques exemples dans le livre de contrôleurs de la SNCF, releveurs de compteurs EDF qui ont acheté un château et qui, pour des raisons personnelles, de passion pour ça, et qui se consacrent leur vie à ce château. Mais c'est des cas très marginaux. Et d'autre part, il y a ça c'est plus important, un marché qui apparaît, un marché de gens qui ont fait une fortune, comme par exemple François Pinault, une fortune professionnelle extrêmement importante, des châteaux pour symboliser leur réussite, disons, et l'ancrer dans cette durée dont on parlait tout à l'heure. Et c'est le château de la Mort-Mère en forêt de Rambouillet, par exemple.
Mais il y a François Pinault, puis il y a tous les gens des médias, du cinéma, qui aussi concrétisent leur réussite dans l'achat d'un château. Donc le marché des châteaux qui s'était complètement écroulé après la Seconde Guerre mondiale, et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez des hôpitaux psychiatriques, vous avez des
lycées techniques.
Des lycées techniques, ce qu'on appelle les châteaux du social, ça c'était après la Libération. Mais aujourd'hui, non, c'est plus possible parce que le marché des châteaux s'est véritablement envolé. D'ailleurs, lié à la mondialisation, il y a environ, je crois, 30% de ceux qui achètent des châteaux aujourd'hui en France qui sont des étrangers, hein, notamment des Anglais, puisque le marché immobilier en France est trois fois moins cher qu'en Angleterre.
Alors moi qui ai eu la chance de passer mon enfance dans une ville communiste, effectivement, la plupart des centres de loisirs étaient des centres où on allait passer nos vacances, étaient des châteaux transformés en... j'avais l'impression que c'était que tout le monde passait ses vacances dans des châteaux. En fait, il y a eu une grande période comme ça.
Ben, toute la période de la Libération où le marché s'est écroulé parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu le Front populaire, parce qu'il y a eu plein de réformes sociales qui ont fait que les salaires du personnel se sont beaucoup élevés et du coup les châtelains n'avaient plus la possibilité d'avoir autant de domestiques. Je sais pas, par exemple, je donne un exemple, le château de Champs-sur-Marne, hein, c'est pas loin de Paris, hein, c'est en Seine-et-Marne, il y avait, je me souviens, 63 jardiniers, il y avait 17 gardes-chasse et il y avait 30 cuisiniers et femmes de chambre, lingères. Donc c'était fabuleux comme chiffre, comme nombre.
Il y a un comité d'entreprise.
Je suis désolée, il n'y avait pas.
Il n'y avait pas encore de comité d'entreprise. Sinon, il aurait fallu.
Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de dollars. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des champs sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on n'a pas. Alors arrêtons de nous laisser faire. Soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, es-tu référendaire pour une poignée de billets verts. Oui, des patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite qu'une volée.
Tout en délicatesse et en finesse, c'était donc les Salles Majestés. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on est toujours avec Michel et Monique Soncharlot pour la publication aux éditions Anne Carrière de leur livre Château et Châtelain, les siècles passent, les symboles demeurent.
Oui, on voit bien en lisant ce livre que les châteaux, c'est presque un objet très symbolique de ce que peut-être la domination des classes dominantes et la manière dont ils utilisent un objet, bon, ici c'est les châteaux, mais ça pourrait être d'autres objets, pour asseoir leur domination. Et ça, je trouve que vous le montrez très très bien au travers de la manière dont ils pèsent sur la fiscalité autour des châteaux. La fiscalité qui est évidemment un domaine important de la politique française, donc comme on a pu le voir ces dernières semaines.
Alors, en effet, les châteaux, comme ça, a priori, ça peut paraître un objet un peu anecdotique, un peu superficiel, un peu pas intéressant. Et puis, en réalité, avec Michel, on a essayé de se servir de cet objet pour montrer au fond comment fonctionnent les classes dominantes. Alors, en un mot, je vais montrer comment les châtelains utilisent depuis le début du XIXe siècle l'État pour transmettre leur château. Autrement dit, dès le XIXe siècle, la classe dominante, à travers ses écrivains et ses savants, notamment Prosper Mérimée, a conçu un système de protection des châteaux, du patrimoine historique, tout à fait original en Europe. C'est un système tripode qui protège. Alors, il y a l'inscription, le classement monument historique depuis 1913, au début du XXe siècle, ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire. Bon, c'est... Il y a l'État protège, aide, sous forme de subvention fiscale, sous forme de subvention, puis de déduction fiscale. C'est-à-dire qu'il y a même des châtelains qui peuvent ne pas payer d'impôts parce qu'ils arrivent à déduire suffisamment de frais d'entretien de leur château. Et troisièmement, c'est important de saisir les trois éléments de ce système de protection, l'État contraint. L'État oblige, en remerciement en quelque sorte de ses aides, à ce que les châteaux soient ouverts au public pour que le contribuable qui contribue finalement à l'entretien des châteaux ben, en profite un peu par les visites. Comment est-ce qu'il contraint encore l'État
Par le respect de normes strictes de restauration, par l'intermédiaire des architectes en chef des monuments historiques, qui contrôlent les travaux, qui réservent les travaux à des entreprises qualifiées spécialement. Mais ces contraintes sont des contraintes qui sont retournées positivement. Les visites sont une forme localement d'affirmer sa position dominante dans le village et dans la région. Les visites sont quelque chose qui impose la famille comme une famille exceptionnelle. Les contraintes sur les travaux, ces contraintes qui en fait sont d'abord prises en charge en grande partie par l'État et qui assurent à ces travaux une longue durée d'efficacité.
En même temps, vous montrez bien que ces contraintes et ces aides ne pèsent pas ou n'aident pas tout le monde de la même manière.
Alors là, justement, c'est ça le travail du sociologue. On aurait pu, au fond, ne travailler que sur des châtelains riches. Hein. Et puis, on s'est rendu compte que pour bien comprendre comment fonctionnaient les aides de l'État, il fallait travailler avec des châtelains modestes. Et en effet, le fait de travailler avec un contrôleur à la SNCF et un releveur de compteur à l'EDF, qui ont tous deux acheté des châteaux classés monuments historiques, des châteaux du Moyen-Âge, montraient que les aides de l'État fonctionnent exactement comme les rapports de l'État avec l'école. C'est-à-dire, c'est un État qui se veut égalitaire face à un monde profondément inégalitaire. Et que l'égalitarisme dans un monde d'inégalité ne fait que renforcer les inégalités. Autrement dit, les châtelains modestes n'ont pas l'argent pour amorcer la pompe des subventions, et puis bien souvent, ils n'ont pas d'impôts à payer pour bénéficier des déductions fiscales. Autrement dit, il pleut toujours où c'est mouillé.
Alors, dans votre livre, autre aspect, vous abordez le statut du château. Et alors, justement, à travers un certain nombre d'exemples, vous montrez qu'il suffit pas de posséder un château pour accéder au statut de châtelain, qu'il y a toute une complexité du rapport avec la population locale, du rapport avec les pouvoirs locaux. Et est-ce que un châtelain qui a le même salaire que les habitants du bourg où il est installé est vraiment un châtelain?
Eh bien, pour être vraiment un châtelain, habiter un château classé, il vaut mieux avoir de la classe, comme on dit. C'est-à-dire, il vaut mieux bien présenter, quoi. Avoir de l'allure, avoir des relations, avoir du capital social, comme on disait tout à l'heure. Et ce qu'on a constaté, c'est que les châtelains modestes ou les nouveaux riches qui viennent juste de faire leur fortune, surtout quand c'est dans le sport ou les médias, par exemple, sont pas très facilement acceptés. Dans les, oui, c'est pas, je pense qu'ici, on ne ferait pas une fortune suffisante pour acheter un château. C'est pas le problème. Mais ne sont pas facilement acceptés par les villageois. Pourquoi ? Parce que ils ne sont pas en harmonie avec ce bien qui est un bien qui exige des personnalités très dominantes dans la société pour occuper justement un symbole de la domination.
Et pardon, je rajoute juste une petite conclusion à ce que vient de dire Michel. C'est très très intéressant parce que tous les châtelains d'origine modeste que nous avons interviewés ont les mêmes problèmes. Autrement dit, tout se passe comme si le fait d'être châtelain alors qu'on n'en a pas les attributs rendait visible l'arbitraire des rapports de sociaux de domination. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le supporter.
Mais à l'inverse, vous montrez dans votre livre que quand on est châtelain et qu'on en a tous les attributs, il y a un certain nombre de proximités avec les pouvoirs locaux et en partie un certain nombre de châtelains qui sont le pouvoir local, puisqu'ils ont ce statut-là. J'aimerais qu'on revienne sur cette confusion des entre maire ou adjoint au maire et châtelain qui peut exister.
Les châtelains sont souvent en position de notable dans leur village et ils se font élire sur des listes d'ailleurs assez souvent apolitiques, d'intérêts locaux, dans des villages, pas des petites villes, mais des villages où ils ont souvent des responsabilités au conseil municipal sur plusieurs générations. Les communes existent depuis la révolution 89, en 93 exactement je crois, et depuis il y a un peu après la restauration il y a de nombreux châtelains qui ont des lignées de maires et de conseillers municipaux.
Parce qu'on se rapproche de l'heure fatidique, et il y a évidemment une question qu'on a envie de vous poser en lisant ce livre, mais aussi en lisant vos livres précédents, une de vos thèses fortes sur la bourgeoisie, actuellement consiste à dire, vous me dites si je me trompe, que la bourgeoisie serait probablement la seule classe qui s'auto-organise actuellement, contrairement à d'autres classes qui auraient périclité ou d'autres classes qui n'auraient peut-être jamais existé en tant qu'organisation consciente, comme les classes moyennes par exemple, on pourrait le dire, ou comme la classe ouvrière donc, qui a périclité à la faveur du déclin du PC et des organisations syndicales. Vous dites au contraire, la bourgeoisie ne cesse de s'auto-organiser et d'exister comme classe.
Eh bien justement, je ne sais pas si ça sera une bonne chute pour cette émission, mais on s'en est jamais autant rendu compte qu'à l'université du MEDEF, pour laquelle nous avons été conviés comme observateurs. Et là, vraiment, c'était... Alors, le thème, c'était « Réenchanter le monde ». Et moi, j'avais envie de chanter, mais j'oserais pas le faire là ce soir parce que je chante pas très bien, mais la dame patronesse de Jacques Brel. Après tout, vous avez chanté « Les bourgeois, c'est comme des conchons ». Et Jacques Brel, il chante et comme le dit le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Et donc, on peut dire que ça, c'était vraiment le thème de l'université du MEDEF, avec du vieux, faisons du neuf.
Michel, j'aurais une autre question et peut-être alors pour poursuivre sur ces discussions-là.
Mais
un petit point sur cette question-là. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que vous travaillez sur la très très haute bourgeoisie dans le fond ? Est-ce que la bourgeoisie qui est un peu moins haute s'auto-organise autant ? C'est-à-dire par exemple la bourgeoisie des parvenus, pour reprendre un terme indigène, est-ce qu'elle s'auto-organise autant ?
Il y a déjà des organisations professionnelles comme le MEDEF qui fonctionne bien et qui montrent qu'il y a un sens du collectif. D'une certaine manière. Et ça nous a frappé, ce sens du collectif. On le voit avec les châteaux. Il y a un syndicat des propriétaires privés de châteaux. C'est la demeure historique. Et la demeure historique est une association qui est un lobby qui essaie de faire valoir les intérêts des châtelains. Et les châtelains sont organisés en syndicats professionnels, d'une certaine façon. Donc on voit, il y aura des tas d'exemples de ce type, on voit que la haute société est a beaucoup plus le sens du collectif qu'aujourd'hui une partie de la classe ouvrière qui est complètement atomisée, par exemple.
Voilà, bah écoutez, l'émission se termine. On recevait donc aujourd'hui Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot qui viennent de publier aux éditions Anne Carrière Château et Châtelain, Les siècles passent, le symbole demeure. Bah merci beaucoup d'être venu.
Bah merci à vous de nous avoir écoutés.
Avec beaucoup de patience, merci.
Et puis voilà, donc c'est publié aux éditions Anne Carrière, ça vient juste de sortir il y a une semaine et puis ça coûte 19 euros.